Les manettes à la baguette sur RCN, Yoann Turpin.
Et bonjour à tous, actu ciné, télé, séries, jeux vidéo, films, oui, on en parle et au travers des musiques et de toute l'actualité qui les concerne. Bonjour Joris.
Bonjour Yoann.
Comment on va ?
Ça va très bien et toi ?
Eh ben écoute, très très bien, je suis très content des trucs que j'ai trouvés aujourd'hui, ça m'a fait plaisir et même en sélectionnant les extraits, je me suis rendu compte que j'avais encore des choses à écouter, donc c'est formidable.
Très très bien, j'ai hâte.
Bon, écoute, à tout seigneur, tout honneur, je propose qu'on commence par toi.
Allez.
Alors, je pense évidemment que c'est du film. Il y a quand même un bon sentiment années 90, mais c'est tout ce que j'ai.
Et bah, t'es pas mal, hein, puisqu'on va parler de Hit, qui est sorti bien sûr en 95, hein, le film de
horrible.
Michael Mann.
Je l'ai vu sur Netflix il y a deux semaines, je suis pas capable de me rappeler de la musique, c'est très grave. D'accord.
La musique qui est composée par, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, ça va me revenir, Elliot Goldenthal.
Oui, oui.
Voilà, donc qui a notamment fait pas mal de films, Alien 3.
En
et
effet.
Et aussi un film d'animation 3D, Final Fantasy, qui peut-être te parle.
Et oui, évidemment, Advent Children.
Exactement.
Oui.
Donc voilà, donc Hit avec Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer. Et donc pourquoi je parle de ça, parce que tu sais peut-être que Hit 2 va sortir donc, avec toujours Al Pacino et des personnes qui se rajoutent au casting, donc notamment Leonardo DiCaprio.
Oui.
Et on a appris il y a quelques jours que Christian Bale aussi va rejoindre le casting, donc
excellent.
Un casting XXL pour un film dont je ne savais pas qu'on avait besoin d'une suite, mais pourquoi
mais
pas.
C'est très à la mode, ça fait à peu près 10 ans qu'on nous pond des suites, puisque l'originalité est morte en 98. Bon, je suis un peu dur, mais en gros, oui. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on rappelle Goldenthal, et ça, ça c'est un très très bon signe, sachant qu'arriver à dépasser le sommet qui est Hit, et qui est un... c'est tout à fait iconique.
Ouais.
Et d'ailleurs, le choix musical et les choix les choix de la narration, les choix scénaristiques me semblent vraiment... Enfin, il y a plein de choses là-dedans qui sont incroyables, folles et qui fonctionnent très très bien. Donc je suis très content. Un petit rip et sad parce qu'il n'y aura plus Val Kilmer.
Oui,
voilà, c'est sûr. Et je trouve que son rôle dans ce film-là était vraiment incroyable. Bon, eh ben merci. Voilà une excellente nouvelle.
Avec plaisir.
Bon, on passe à mon extrait. Bon, c'est pas drôle, tu as trouvé.
Oui, ça vient de Skyrim, donc Elder Scrolls, mais pourquoi tu veux nous parler de ça?
Alors, on a écouté déjà For Blood, For Glory, For Honor de Elder Scrolls Online. Oui, absolument. Et la musique a été composée par le merveilleux Scott Buckley. Mmh. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que le 13 du mois de février est sorti tout simplement un album orchestral qui reprenait toutes les musiques qu'on peut trouver dans Elder Scrolls, tous les Skyrim, etc. Et on n'en parle pas assez, mais des albums qui sortent sur des licences de jeux vidéo dont la musique a tellement marché qu'on a envie d'en parler et de le réécouter dans des nouvelles versions, ça existe, ça sort, ça a son public, et il n'y a pas de raison, vu qu'on est une émission musicale, de ne pas parler de ce genre de choses. On peut retrouver d'ailleurs les musiques, par exemple, tirées des films Super Mario, dont le prochain va arriver, etc. Bref, il y a pas mal d'albums qui reprennent les thèmes que vous aimez dans des versions orchestrales. Là, c'est le cas. C'est un album 17 titres quand même, donc très généreux, qui a été enregistré par l'Orchestre National de Londres, donc évidemment pas des bras raccourcis ni des nains, donc voilà, il est absolument somptueux, il est dans les sorties Spotify, Deezer et toutes les plateformes de ce mois, je vous conseille d'écouter cela. Incroyable. Ça fait vivre à la fois les orchestres, les compositeurs évidemment de musique, de jeux vidéo, de films, du média en général, bref, ça fait du bien partout où ça passe, je trouve.
Et ben j'irai écouter. J'enchaîne ?
On enchaîne. Bon, Pokémon.
Tu as facilement trouvé.
Oui, parce que sinon mon frère me tue.
Oui, c'est ça. C'est Pokémon. Donc Pokémon rouge feu.
Oui.
Et Verfeuille.
Absolument.
Donc le remake sur Game Boy Advance 2 rouge.
Oui, exactement.
Et bleu.
Exactement.
Ouais, ils ont décidé de faire vert.
Verfeuille, absolument. Parce qu'en fait, il y avait à la base, mais on va. Je faisais une émission sur Pokémon, il me faudrait à peu près 7 jours pour l'enregistrer. Mais on n'avait pas les mêmes versions lorsqu'elles sont sorties au Japon. Chez nous, il y a eu aussi des versions promotionnelles. Donc, entre les packaging que nous n'avions pas en Europe, mais qui faisaient ce qu'on appelle maintenant de la hype, ils se sont dit, ah tiens, si on refait sur GBA, on va leur donner du verfeuille, c'est la même chose, mais ça va leur plaire c'est quand même, puisque nous, on avait vert au Japon.
Ouais. Donc, un jeu qui est sorti déjà il y a 20 ans.
Et oui.
Et qui ressort. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'il ressort? Enfin, oui, c'est la même version, mais sur Switch.
Exactement.
Qui est sorti hein, à l'heure où vous écoutez cette émission. Pour la modique somme de 20 euros. Donc, pourquoi sortir un jeu qui a 20 ans pour 20 euros et pas gratuitement? Bon, ça, on peut se poser la question.
Mais la politique de Nintendo depuis la sortie de la Switch 2, elle est très, très particulière parce que la Switch 2 a explosé les prix. Ces jeux rattrapent tous les jeux des next-gen PS5, Xbox Series et le reste, alors que la politique était très familiale à la base, donc très abordable. Et je pense que c'est d'autant plus aberrant, à moins d'être un fan hardcore, je suis un fan hardcore, mais quand même pas jusque-là, parce que l'émulation existe.
Et c'est ça.
Mais ils ont quand même leur console virtuelle. Ouais. Donc, leur console virtuelle, pour 24 euros à peu près, avec pack additionnel, allez, on va faire 40 euros sur un an, c'est défiant toute concurrence. Donc, on a déjà tout en place. Donc, repayer 24 euros pour quelque chose auquel on peut jouer sur leur console virtuelle ou les autres, parlons-en. Le monde de l'émulation existe. Ouais. On connaît la politique de Nintendo vis-à-vis de l'émulation. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont encore plus policiers et discriminatoires que tout autre représentation oppressive de la planète. Et bon, voilà, après, les fans apprécieront, les autres hausseront les sourcils. Je fais partie de la seconde catégorie, je crois. Voilà.
Mais bon, voilà, donc c'est pour leur anniversaire, bien sûr, puisque Pokémon fête ses 30 ans cette année.
Donc,
on s'attend aussi à avoir plus d'informations sur d'autres jeux potentiels ou d'autres petites bêtises comme celle-ci.
Oui, bah, ça va nous. Ils vont affleurer, surtout que c'est un film qui tient bien. La Pokémon Company et Game Freak peuvent se frotter les mains, ça fonctionne bien, même quand ils font des choses pas super abouties ou pas super au point, ça continue de fonctionner. Ouais. Pourquoi s'arrêter?
C'est une très bonne question.
C'est la question. Bon, on se la posera avec mon prochain extrait. We'll be right back.
Les manettes à la baguette sur RCN.
Alors
bon là, si vous êtes fan de jeux vidéo, surtout depuis ces 30 dernières années, ouais. Vous aurez tous reconnu Final Fantasy VII, on a entendu Bombing Mission, la version du remake qui est sortie sur toutes les consoles next-gen, y compris d'ailleurs sur Switch 2, on a un FF7, mm-hmm. Nobuyu Matsu bien sûr, qu'on ne présente plus à la baguette, mais bien pourquoi sûr. J'en parle.
Très bonne question.
Eh bien, on peut lever les bras puisque Square Enix a lancé donc sa nouvelle version officielle de FF7 qui va être disponible sur Steam et GOG pour 12,99€ et elle remplace celle de 2013. Mais pourquoi nous retirer cette version de Steam? Alors surtout qu'en plus, ceux qui avaient leur sauvegarde sur Steam, mes amis, vous ne pouvez pas la mettre dans la nouvelle version, il faudra tout recommencer. en fait, il y a des améliorations modernes qui ont été enfin portées à cette version-là, toute pixelisée, mais on adore les polygones à cette antenne. Donc il y a plusieurs options de confort moderne. On peut mettre en vitesse x3 pendant les combats parce que c'est interminable. Il y a la désactivation des combats aléatoires. Ça, je trouve que c'est intéressant, sauf ceux qui sont scriptés, c'est-à-dire ceux qu'on est obligé de faire pour faire avancer le scénario. Et puis, il y a des améliorations de type restauration automatique des HPMP, points de vie, les points de mana. Ouais. Et la jauge de limite break. Alors bon, ça, je trouve que c'est un peu plus optionnel, mais il y a des gens qui aiment bien tracer les jeux. Et c'est en fait une amélioration qui est vraiment dans l'air du temps.
Ouais.
Plus de frustration, plus d'efforts.
C'est tout, vite.
Tout vite, tout bien. Je veux un jeu dont je veux voir le truc. Bon, voilà, en gros, c'est pour avoir un effet couloir, je trouve, sur le jeu. Et puis des points de sauvegarde automatique, ça aussi c'est tellement simple quand ça sauvegarde automatiquement et qu'on n'a pas besoin d'aller se rendre à un point. Voilà, donc c'est une version, on va dire,
améliorée
dans l'air du temps, modernisée. Si l'époque moderne consiste à éviter tout effort, toute abnégation et toute pugnacité dans les jeux,
c'est possible.
Je vous conseille de pas installer celle-là et garder celle de 2013. Après, je comprends, personnellement, quand j'ai refait Final Fantasy IX sur ma PS4 Pro, j'étais bien content d'avoir une option pour avoir mes HP tout le temps au maximum, etc. et pouvoir dire à ceux à qui je jouais, regardez, donc il va se passer ça, etc. Bon, voilà, c'est bien quand même. 2013-2026, hein, ça faisait 13 ans, on va quand même pas leur taper sur les doigts. Et comme il y a une grosse hype autour de la licence Final Fantasy VII, Square Enix s'est dit, bon, allez, on peut quand même mettre les choses à jour. Voilà.
Très bien. Allez.
Bon, à toi. Used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Live and let die.
Live and Let Die, James
Bravo.
Bond et Roger Moore, alors à son oui. époque, de son, sa période de son sexiness au top.
C'est ça, t'as tout trouvé, hein, bien sûr, oui. interprété par, par Paul McCartney, bien sûr.
Oui, oui, très très belle version.
Ouais, pourquoi d'abord, on va parler de James Bond.
Oui,
il y a plusieurs actus.
Évidemment.
Alors, il y a de très grosses rumeurs sur le potentiel prochain acteur de James Bond, parce qu'on le sait,
ça
Daniel
y est,
Craig, c'est fini.
Enfin, oui, bah oui, ça
voilà.
c'est bon.
Alors, c'est pas confirmé, mais
oui.
Si c'est le cas, au moins vous l'aurez entendu en premier
oui.
sur les manettes à la baguette. C'est possiblement Jacob Elordi. Donc, Jacob Elordi qu'on a bien sûr vu
Incroyable.
Très 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 récemment dans Frankenstein.
Oui.
Là, actuellement au cinéma Hurlevent.
Hurlevent, absolument.
Et bien avant aussi avec la série Euphoria.
Absolument.
Mais
oui.
voilà donc un acteur donc, qui pourra potentiellement jouer James Bond.
Seigneur.
Qu'en penses-tu ?
Mon haussement de sourcil vient de dépasser ma calvitie
ouais.
parce que Jacob Elordi ne m'a pas laissé un sentiment
ouais.
mirifique. Après, il est bankable.
Ouais.
Après, il faut savoir tout de même que la licence James Bond est passée sous pavillon Amazon. Et
oui.
donc, qu'ils savent très bien comment est-ce qu'on fait pour étirer les choses et continuer de les faire vivre, surtout financièrement.
Ouais.
Parlons de Seigneur des Anneaux, rien que ça.
Mm-hmm.
Donc, mais Jacob Elordi, si c'est lui, bon, alors déjà, je pense que le reboot est évident.
Ouais.
Est-ce qu'on va devoir nous refaire à chaque fois tous les méchants, tout le truc, etc. Va falloir trouver une bonne manière de nous le vendre.
Mm.
J'espère que l'originalité sera admise parce qu'on a épuisé tous les romans de Ian Fleming.
Bien sûr.
Donc, ben, vraie question. Mais
ouais.
alors là, Jacob. Alors, moi, je le dis tout de suite, dans Hurlevent, pour moi, c'est non.
Oui,
voilà. J'ai été un petit peu. Voilà, je suis. Après, attention, hein, c'est un bon. Voilà, je dis que je n'y suis pas sensible, mais c'est un bon acteur.
C'est ça.
Mais je n'y
ouais.
suis pas sensible.
Bien sûr.
Bon, voilà.
Donc, on verra.
Oui.
On verra, bien sûr.
Moi, je veux surtout savoir, du coup, qui va composer ça.
Bah, ouais.
Hein,
on verra. Et surtout aussi la chanson, parce que là, il y a une chanson à chaque James Bond. Hein,
à chaque James Bond,
c'est culte.
Absolument. C'est culte. Voilà. Donc,
et donc, là, cette chanson-là pour Live and Let Die, c'était Paul McCartney. Pourquoi
oui.
J'ai décidé de choisir celle-là. Parce qu'il y a, bien sûr, d'abord, un documentaire qui sort sur Paul McCartney à l'heure où vous
Excellent.
Écoutez, qui est super. Donc, c'est sur sa carrière solo. Par contre, donc, c'est après la séparation avec les Beatles, parce que il est souvent passé enfin il s'est fait passer pour le méchant de l'histoire, pour celui qui a fait séparer le groupe, alors que lui il est juste parti vivre sa petite vie dans sa petite ferme
oui.
avec sa famille et ses chèvres. Donc ça peut être intéressant parce qu'il a aussi eu un autre groupe par la suite
oui.
avec
oui.
Wings, et c'est pour ça d'ailleurs
Exactement,
qu'ils ont fait
ouais.
Live and Let Die. Et je parle aussi de ça parce que vous savez, dans 2 ans sort un biopic sur les Beatles, mais pas qu'un.
Ah, c'est pas
Puisqu'il y a 4 films qui vont sortir en même temps. Vraiment. Voilà, sur
D'accord.
chacun des Beatles, réalisé bien sûr par celui qui a fait Skyfall. Donc encore un lien avec
James
Bond. James
Bond, absolument.
Puisque ça sera Sam Mendes qui
D'accord.
va réaliser ce.
Mais
ce
les 4 films
biopic.
4 films de Sam Mendes sur le biopic Beatles, alors.
Ouais.
Alors,
un sur chaque. On a eu pas mal d'images donc,
ouais.
Du tournage
oui.
parce qu'il
oui, oui.
y a des leaks de partout, hein, bien
bah
sûr.
Oui, oui, oui. J'imagine quand on fait 4 films, 4 studios de production,
ouais.
4 plateaux. Bon,
ouais, c'est ça. Et on a vu aussi, du coup, ils nous ont montré une image par chaque acteur
ouais.
qui représente les Beatles pour
oui.
qu'on ait un petit aperçu. Donc avec Paul Mescal qui
D'accord.
fait Paul McCartney.
Très bien, très bien.
On a Harry Dickinson qui fait John Lennon. On
oh,
a Joseph Quinn qui fait George Harrison. Donc Joseph
ouais.
Quinn qu'on
ouais,
a
ouais.
vu récemment dans Les 4 Fantastiques.
En effet.
Et on a Barry Keoghan qui fait Ringo Starr.
D'accord, bon.
Nous verrons bien.
Écoute, alors moi je sais que tu vas y être très attentif.
J'y suis déjà très attentif, je regarde toutes les photos,
oui.
je regarde les détails, les coiffures,
oui, oui.
les costumes,
oui,
les
oui,
lieux.
Oui,
mais,
oui. Ça me rappelle quand il y avait 2 biopics qui étaient sortis sur Wyatt Earp, peint par Kevin Costner, un autre
ouais.
Qui est Tombstone, etc. Et qu'à chaque fois, pour toutes des raisons très étranges, là c'est calculé, donc
ouais.
là normalement c'est censé être maîtrisé. On va voir si c'est le cas.
Ouais.
Ok, très
voilà,
bien.
Voilà, c'était la triple actu.
Excellent, merci beaucoup. Allez, c'est parti pour un petit doublé en ce qui me concerne. We'll be right back. Bravo Joris.
Oui.
Par élimination, tu as trouvé Taken, ouais. À savoir le 5. On a écouté Crimson Sunset et Moonlit Wilderness, deux de mes titres que j'aime beaucoup, mm-hmm. que je vous avais déjà fait entendre.
Ça,
je les adore. Et ben en fait, hier, c'était l'anniversaire, et quand je dis hier, le moment de cette émission, donc c'est-à-dire pour vous le 24 février, l'anniversaire de Taken 5.
D'accord.
Voilà, c'était sa sortie, ce jeu, à 22 ans.
Déjà.
Voilà, par Namco. Et c'est un des jeux de baston les plus marquants de l'histoire à cause de son gameplay, à cause de ce qu'il a installé dans le renouveau. Tout le monde en fait attendait Tekken après la fin de la PS1. Sur PS2, il a pris un peu de temps à s'installer. Le 3 était assez fou, le 4 était un peu tombé en désuétude. Ouais. Il avait alourdi les choses. Le 5 a tout changé, dynamisme, etc. Enfin, on avait le retour des combos aériens, c'était une folie. Et il reste cité parmi les amateurs du genre et les critiques comme vraiment étant le jeu de combat qui a fait entrer les jeux de combat, une partie des jeux de combat dans la nouvelle ère.
Ouais.
Et donc voilà, il a eu 22 ans hier et c'est un bel anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Voilà, voilà. On pouvait le retrouver même sur les PSP à l'époque. On avait eu le Tekken Tag qui était le nom du 3, mm-hmm. etc. Et on a commencé vraiment à le licencer de manière très forte, moderne, en faisant entrer dans ce qu'on connaît nous aujourd'hui avec les exploitations de licence. Et donc voilà, je voulais lui faire un petit cadeau en le passant aux manettes à la baguette, puisque je dois bien admettre que celui-là, je l'ai poncé.
Ouais, c'était très très bien.
Voilà.
Allez, j'enchaîne.
On enchaîne. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour we spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she she and I together, like it was meant to be. And when she was lonely, I was there to comfort her. And I knew that she loved me. As the years went by, I stayed the same. But she began to drift away. I was left alone. Still I waited for the day when she'd say, I will always love you. Lonely and forgotten, never thought she'd look my way. And she smiled at me and held me
just like she used to do,
like she loved me when she loved me. When she
Les manettes à la baguette sur RCN.
Toy Story.
Oui, tu as trouvé très rapidement.
Oui, évidemment.
Bien sûr, c'est le thème de Jessie dans Toy Story 2 qui s'appelle When She Loved Me, qui est là interprété par le Royal Philharmonic Orchestra.
Oui.
Donc, très sympathique version.
En effet.
Donc, composée par Randy Newman, bien sûr, comme tous
adore
les classiques
ici,
de Toy Story.
Oui, absolument.
Et donc, pourquoi
c'est la sortie de Toy Story 5,
bien sûr. On a eu les premières images avec la bande-annonce, cet iPad maléfique, le retour de Woody alors qu'il était censé être parti. Une calvitie.
Absolument. Quelqu'un a un feutre brun.
Voilà. et toute sa joyeuse bande qui revient pour ce cinquième film. Je pense que ça sera aussi une potentielle suite avec le sixième, puisque ça fait un peu première trilogie, deuxième trilogie.
Oui, en effet.
Donc, on verra bien. Hein, mais moi, je me suis arrêté au 3. Alors, j'ai vu le 4, mais pour moi, je me suis arrêté au 3.
Oui, je comprends. Alors, moi, je suis très fan de ce qu'ils ont fait, parce que depuis que cette licence-là existe, ils se sont toujours attachés quand même à des faits de société. Grandir, abandonner son enfance, l'imagination, etc. Est-ce que je suis vraiment un jouet si je suis fabriqué par l'enfant ? Et là, ils parlent d'un truc qui est absolument, je trouve, touchy maintenant dans nos sociétés, dont on parle peu, c'est l'hyperprésence numérique. notamment auprès des enfants, hein. On le rappelle, en France, normalement avant 3 ans, et je trouve que ça devrait être 5, pas de smartphone pour les enfants, alors leur mettre une tablette dans les mains, c'est encore pire. Ouais. Et Toy Story 5, ils font quoi ? Ils en parlent. J'ai trouvé ça absolument fameux de mettre cette chose-là. Woody le dit d'ailleurs, hein, contre la tech, on ne peut pas grand-chose, mais les jouets, eux, qui sont le lieu justement de la créativité, de l'imagination, de la projection des enfants. D'ailleurs, cette bande-annonce est construite absolument géniale. Ouais. Parlons-en. Ça commence justement par la fille qui fait une aventure, etc.
C'est ça.
Et tout est coupé parce que tout d'un coup, paf, elle reçoit sa nouvelle tablette et la tablette capte, récupère, vole tout ça. Il n'y a plus de projection, tout est déjà préfait, prépensé, et d'ailleurs elle est maléfique, on le voit dedans, alors je pense que ça ne va pas en rester là parce que c'est Toy Story, mais c'est tellement bien vu de se parler de ce sujet-là, moi qui me touche particulièrement puisque je suis assez proche, je travaille d'ailleurs déjà à titre personnel pour une industrie, pour l'industrie du jeu vidéo, donc ça touche aussi tous les médias qui sont proposés et qui sont des capteurs d'attention, évidemment, tablettes et cross-média de toute façon. Mais j'ai trouvé ça tellement bien vu de parler de ça, parce que c'est le sujet du moment. Que faire des jouets quand vous avez des écrans partout ?
Ouais, très bonne question.
voilà, donc c'était tellement bien vu. Donc moi, je vais courir, n'est-ce pas ? Je vais dormir le 16 juin devant la salle de cinéma.
Et pour après le voir.
Voilà, je me réveillerai. Tu sais, comme Mr Bean qui avait mis un faux chip avec un ballon. J'arriverai, je taperai le ballon, je plierai le sac de couchage et en fait, c'était moi pour le voir. Je vais foncer le voir. Très bon choix, merci beaucoup Joris.
Avec plaisir, à toi. Thank you. très sympa.
Eh oui, très joli fin. Bon, alors, je suis clairement dans ma période anniversaire. Oui. Donc, je le disais hors antenne, nous avons écouté l'excellente version des vacances de Monsieur Hulot, le thème « Mon oncle », puisque le 25 février en 1953, c'était la sortie justement du film « Les vacances de Monsieur Hulot », un grand pan, un truc iconique dans l'histoire du cinéma français.
Ouais.
J'avais envie d'en parler parce qu'on entend cette merveilleuse version par un excellent album qui s'appelle « French Movie in New York ». Mais il y a une double corrélation dont je ne suis pas fier dans cette actualité qui a l'air de rien, c'est que cet album est un choix d'un merveilleux jazzman que j'aime beaucoup, hein, qui était au piano, mais qui est Laurent Epstein. Alors, il n'a aucun lien avec l'affaire Epstein.
Ouais.
Voilà. Celui-là, c'est le bon.
C'est le bon.
Et ça m'a fait rire, parce que j'adore cet album. Il y a pas mal de reprises, justement, de films français en jazz. Je vous le conseille, hein, French Movie in New York, avec Eddie Gomez, Willie Jones, trois à la batterie, Vanisha Gould, qui nous chante une très belle version de la chanson d'Hélène. Dans les choses de la vie. Voilà, mais ça m'a fait rire que ce soit Laurent Epstein. Ouais. Celui-là, c'est le bon. Voilà. Et donc, c'était le 25 février 1953 où sortait ce grand film de Jacques Tati. On en discutait aussi hors antenne avec les charmantes personnes qui travaillent à RCN. Jacques Tati, vous le trouvez partout. Hein, salle de cinéma, rue, salle de spectacle. Posez-vous la question pourquoi. Tous ces films sont visibles quasiment absolument partout. Dans les cinémathèques, les médiathèques, etc. Vous pouvez le trouver partout. C'est le moment aussi de vous demander un peu... qu'est-ce qui marchait à l'international
À
l'époque, voilà. Ouais. Dans le XXe siècle, 1953, c'est une pure merveille. Ça a bien marché parce qu'il n'y a pas de parole. Tout est visuel chez Tati à chaque fois. Voilà, il a inventé le gag cartoonesque, on va dire. Mais même avec, à l'époque, des innovations, des choses qu'on n'avait pas vues, des idées vraiment incroyables. Je vous conseille un film qui lui rend aussi hommage, c'est Les Triplettes de Belleville, un film d'animation beaucoup plus récent.
Ouais. Cholet.
Voilà, de Cholet, absolument. Il a fait d'ailleurs un autre film qui s'appelle L'Illusionniste, là qui reprend clairement le personnage justement de Jacques Tati, puisqu'il est l'illusionniste et c'est un très très beau film hommage. Donc voilà, tous ces films-là que j'aime bien et auxquels on peut rendre hommage au travers de ce titre.
Très bien. Allez, je vais passer le dernier extrait.
On termine.
C'est très facile. Hein.
Parfait.
En deux secondes.
Évidemment.
J'avais dit que c'était facile.
Voilà, c'était la série Roswell. Non, pas du tout. C'est la série X-Files.
Bien sûr. Mais évidemment. X-Files avec Dana Scully, donc Gillian Anderson.
Exactement.
Et Fox Mulder. Ouais. Donc David Duchovny. Duchovny. J'arrive jamais à dire
ça. Il n'y a pas de problème. On est français. X-Files. Chez nous, c'est H, ça fait che. Voilà. Est-ce qu'on dit un queval ? Je ne crois pas. Voilà. Bon.
Bah oui, cette série culte qui va avoir le droit, je ne sais pas si tu as vu, un reboot.
Oh là là,
par Ryan Coogler, qui a fait Black Panther ou encore récemment Sinners. Voilà, il va faire un reboot de la série X-Files.
Mesdames, messieurs, je suis bloqué dans une boucle temporelle. Voilà, on me ressort les mêmes choses des années 80 et 90 et je vais les voir en boucle jusqu'à la fin de ma vie. Où est l'originalité? À l'aide, au secours.
D'accord. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ryan Coogler,
Bon, j'exagère un peu. Je suis incroyablement heureux de voir un remake, un reboot de la série X-Files. Et évidemment, je comprends que si j'ai ce genre de réaction, ça s'adresse à moi, c'est-à-dire trentenaire, quarantenaire. Il y a que qui l'ont vu. Hein. mais bon, il y a peut-être voilà. Mais dernière réflexion qu'on peut se poser, c'est que je me faisais ça. Ça m'est venu en regardant la profusion de séries de films qu'on peut trouver sur les plateformes. En fait, il y a de tout et pour tout le monde, mais il y en a tout, il y a de trop. En fait, c'est pas qu'il y a de trop, c'est-à-dire il y en a pour tout le monde, mais pour séparer le grain de l'ivraie, pour faire une référence aux Saintes Écritures, c'est-à-dire pour trouver ce qui a vraiment de la valeur par rapport au reste. Prenons par exemple Stranger Things qui a marqué tout le monde, ou Walking Dead qui a marqué tout le monde, ou par exemple des ovnis comme la série Lost qui a perdu tout le monde mais qui a fonctionné et qui a engendré tout un tas d'autres choses derrière. Et maintenant on se retrouve dans une profusion. Alors c'est super, hein, ça nous permet à nous d'en discuter, de parler de culture un grand C, mais est-ce qu'on en avait besoin? Je sais pas, on verra. Ouais. J'ai envie de voir cette nouvelle proposition.
Ryan Coogler qui a déjà fait un reboot puisqu'il avait fait Creed. Et donc, le reboot de Rocky.
De Rocky, voilà.
Là, on continue. Il disait que c'était un peu le truc avec son père, Rocky. Et bien là, le truc avec sa mère, c'est X-Files. Donc, on verra bien pour ce reboot.
Voilà, une grande question. J'ai été très ravi d'enregistrer cette émission en ta compagnie. Et le public de l'école de la deuxième chance à Nancy, on les salue.
Et oui.
Je rappelle qu'on peut écouter des choses et les voir. Et que c'est incroyable, on peut faire les deux.
En même temps.